France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité a choisi d'évoquer un monument, tout simplement, lu, relu, cité, récupéré, adoré ou détesté, ce philosophe, historien, économiste a le pouvoir, 140 ans après sa mort, d'occuper encore le terrain et d'une simple phrase, on va le voir, de déclencher des passions et des vocations.
Dans cette série, on a pu entendre les semaines précédentes des entretiens consacrés à Alexandre, Cléopâtre, Attila, Charlemagne et le marquis de Sade. Ce soir, Karl Marx.
Marx n'a pas interprété le monde, il l'a vu.
Joli succès, chapeau bas, bravo Karl.
Il l'a vu comme il était.
Bah, nous sommes encore dans ce qu'on appelle noblement l'épistémologie marxienne ou marxiste dans la recherche occidentale.
Notre tâche, aujourd'hui, est tout simplement...
Je connais cet homme, c'est Karl Marx.
Marx, nom propre entre guillemets.
Et de consistance théorique à la philosophie marxiste.
Tout le monde parle de Marx, personne ne connaît Marx.
Ouvrons maintenant le chapitre des informations internationales. Il y a 75 ans, exactement aujourd'hui, mourait à Londres Karl Marx.
Despite the predictions of Karl Marx, our economy has...
Marx, enchanté. Ma femme, Jenny.
Mon petit sanglier. Ah, cher amour, voilà que tu te mêles de politique. Karlchen, n'oublie jamais que tu as une aimée à la maison.
Bien, le monde ne s'est pas réalisé de la façon que Marx imaginait qu'il se réaliserait.
Non, madame Marx. Je vous avoue que je ne peux plus entendre parler de révolution.
Si j'ai été en avance par rapport à la réflexion habituelle sur la société, c'est un peu à Marx que je le dois.
Alors, Karl, satisfait ?
Comme manière de condamner l'œuvre de toute la vie de Marx, à mon avis, on n'a rien trouvé de mieux que cette manière de le sauver.
Que nos lleve al socialismo científico, como dijo, tal como lo dijo Marx.
Bonjour Bernard Laeyer.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre du centre Max Weber de l'ENS de Lyon. On vous doit plusieurs ouvrages. Le dernier est paru aux éditions de La Découverte et s'intitule « Vers une science sociale du vivant ». Alors on l'a entendu, tant d'hommages dans ce mix d'archives par notre réalisateur Nicolas Berger. On a entendu la voix de Marguerite Duras, de Roland Barthes, de Pierre Bourdieu, de Claude Lévi-Strauss, Jacques Ellul, Jacques Derrida, un extrait de La Chinoise de Jean-Luc Godard, Raymond Aron, Rossellini, je veux tout dire, le jeune Marx, le jeune Karl Marx de Raoul Peck. Pourquoi avez-vous choisi Marx? Est-ce que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez?
Je pense qu'actuellement, il n'est quasiment plus lu dans les départements de sciences sociales en France, et sans doute ailleurs, mais je parlerai pour ce que je connais le mieux, que c'est malheureux. Alors, il est généralement cité comme un des grands fondateurs des sciences sociales, avec deux autres auteurs, qui sont Émile Durkheim pour la France et Max Weber pour l'Allemagne. Mais Marx, malheureusement, n'est pas très lu. Et je pense que, évidemment, tout ce qui a suivi Marx, c'est-à-dire le marxisme, les dérivés sur le plan politique, le communisme, etc., a fait beaucoup de mal à l'œuvre, qui est une œuvre scientifique, qui est une œuvre vraiment fondatrice, et qui, quand on découpe des morceaux divers et variés de son œuvre, pourrait constituer un manuel des sciences sociales tout à fait contemporain. Donc moi, j'estime que il y a presque toute la sociologie dans Marx, et que c'est dommage qu'on n'ait pas accès plus largement à cette œuvre, d'autant qu'il écrit tellement bien, avec beaucoup de métaphores.
Oui, c'est vrai.
Il est très percutant, il dit des choses qui restent, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui me reste à l'esprit, parce qu'il a des belles métaphores. On comprend tout de suite, il est un peu mordant aussi, il a un côté ironique, il est sarcastique, enfin tout ça.
Il mâche pas ses mots en tout cas, il a pas peur quand même d'affirmer des choses. Et puis surtout, quelque chose d'assez frappant, moi j'ai pas lu Le Capital en entier, j'en ai étudié des extraits, j'ai re-regardé pour notre émission Bernard Laeyer le sommaire du Capital, mais c'est monumental. Tout est dedans, en fait. Tout est dedans, avec en plus un côté presque novateur sur le temps de travail, par exemple. Enfin, il y a quelque chose où on se dit à la fois novateur pour son époque et tellement actuel.
Oui, j'ai même vu passer récemment, alors je ne me rappelle plus du nom de l'auteur malheureusement, mais un travail, un livre sur les rapports, enfin ce que pensait Marx, est-ce que Marx était un penseur de l'écologie et du désastre écologique. Et évidemment, il n'avait pas les éléments que nous avons aujourd'hui, mais il était déjà tout à fait conscient de ce que le système capitaliste faisait non seulement à des humains, mais à la Terre, par exemple, qui était surexploitée, à toute cette nature, entre guillemets, qui est effectivement soumise à rude épreuve avec le machinisme, avec l'industrie agroalimentaire, etc. Enfin, toute cette puissance artefactuelle mise au service de la subsistance fait que on soumet la terre aussi et la nature à des contraintes extrêmement fortes. Ça, il l'avait compris et il voyait très bien que la terre elle peut pas donner en permanence. Il faut la laisser un peu tranquille si on veut pouvoir continuer voilà. Et donc Marx est extrêmement moderne sur plein de points. C'était un grand, grand lecteur aussi, ça, il faut le noter. Et il y a un dernier Marx, d'ailleurs, qui n'est pas publié, ou très peu, c'est fait petit à petit. Il y a eu un premier livre en France qui s'appelle, je crois, Le Dernier Marx, justement. Mais je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais 30 000 pages de notes qu'il a laissées et qui ne sont pas connues, où il prenait des notes sur... Ouais, on pourrait dire de ce qui relevait de l'ethnologie, de la préhistoire.
Ça vous intéresse?
J'ai l'impression que...
Plus que le capital.
Alors, oui, parce que le capital, c'est vraiment centré sur le mode de production capitaliste. Mais Marx, quand il... Avant même de terminer le capital, puisqu'on sait que les livres 2 et 3 n'ont pas, enfin, sont sortis après, grâce à Engels, il avait arrêté d'y travailler. D'ailleurs, il disait à tout le monde, oui, je travaille sur le 2 et le 3, mais en fait... Il travaillait sur autre chose, il s'intéressait, je pense, à une histoire de l'humanité. Et ça, évidemment, d'abord c'est intéressant, et on voit qu'il était à la recherche de compréhension plus large que simplement dégager les lois du mode de production capitaliste, ce qui était son livre majeur, on va dire, c'est le Capital, c'est comprendre le mode de production capitaliste. Il nous a laissé des analyses qui sont encore valables aujourd'hui. Mais en fait, il était déjà au-delà de ça. Et il voulait comprendre des choses beaucoup plus générales qui s'étendent dans le temps. Il lisait des préhistoriens, il lisait des ethnologues, etc. C'est quand même assez incroyable.
Alors j'insiste sur le Capital, Bernard Lahire, mais c'est parce que précisément vous n'avez pas choisi de nous parler de cette œuvre. Vous avez été plus coquin que ça, si je puis dire. Oui. On vous a demandé de parler d'une œuvre et vous avez décidé de prendre des phrases différentes de Marx. On va les entendre, mais avant de les entendre, je ne sais pas pour les auditeurs s'il faut déjà spoiler notamment la première phrase qui vous a vraiment ouvert à Marx, mais il y a vraiment eu une révélation avec une phrase qui continue encore aujourd'hui à vous habiter, à vous...
Oui.
Et alors, je dois dire... Que en lisant cette phrase, moi aussi, mais avec le texte qui dans lequel elle s'en sert, c'est vrai que c'est un sacré choc.
Moi, en tout cas, ça a été un choc parce que j'avais 17 ans et demi, pour être précis.
Donc en terminale.
En terminale, avec un prof de français qui avait beaucoup lu Marx, qui en était revenu du communisme, mais qui me disait, il faut... Intéressez-vous au marxisme, à Marx surtout, et moins à la question politique. Enfin, en tout cas, lui, c'était sa trajectoire, et il disait que c'était beaucoup plus intéressant de lire Marx. Et j'ai découvert, effectivement, dans l'introduction à la critique de l'économie politique, une phrase qui m'a complètement bouleversé. Mais parce que j'avais 17 ans et demi, j'étais très idéaliste, au fond. Je pensais que le monde était mené par des idées. J'avais eu une formation même catholique pendant quelques années, pas pas longtemps, en fait.
C'est pas vos parents, hein. C'était que vous étiez dans un collège ou lycée catholique,
non, j'imagine. Non, pas du tout. Non.
Ah, vous alliez au catéchisme?
J'allais. Non. j'ai fait tout ma scolarité en service public, ça j'y tiens. J'y tiens particulièrement. De toute façon, mes parents n'auraient pas pu payer quoi que ce soit du côté du privé. Mais j'ai fait quelques années de catéchisme, ce qui laissait en moi des choses, l'importance des idées, de choses qui sont créées avec l'idée de volonté, d'intentionnalité, etc. Et là, je tombe sur une phrase de Marx qui m'a remis, mais comme il disait lui-même, Hegel sur ses pieds. C'est-à-dire, au lieu de penser que c'est les idées qui mènent le monde, en fait, c'est le monde qui permet à des idées de se formuler. D'ailleurs, souvent assez tardivement, il ne le dit pas dans la phrase, mais ça, c'est ce que je peux dire plusieurs décennies après, c'était complètement bouleversant. Mais ça a été un choc physique, en fait. Hein. Quand j'ai lu ça, et puis qu'il y avait les commentaires, les discussions, ça, je ne peux pas m'en rappeler exactement, mais qui accompagnait cette citation, pour moi, c'était une sorte d'ébranlement. Quoi.
Physique.
Oui. Et d'ailleurs, quand je la relis, ça me fait quelque chose que je ne peux pas décrire précisément.
C'est... Il y a une forme d'euphorie, de jubilation, alors, ou vraiment de choc, comme on pourrait prendre conscience, je ne sais pas, d'un trauma qu'on avait refoulé ou.
Alors non, il n'y avait aucun trauma.
Non, mais j'imagine, j'ai une sorte d'analogie, c'est de comprendre ce choc physique.
Ben c'est plutôt une révélation, quelque chose comme ça.
C'est
de se dire. Ben, si c'est ça, alors il faut faire des sciences sociales, en fait. Il faut tout ramener aux conditions dans lesquelles les gens vivent. Ce qui paraît comme ça, c'est prosaïque de dire les choses comme ça. J'ai le sentiment de l'aplatir en disant les choses comme ça, alors que c'est extrêmement profond et que on continue dans beaucoup de secteurs des sciences sociales à ne pas tenir compte de cette phrase de Marx, qu'on n'a toujours pas citée d'ailleurs. Donc,
non, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez la dire?
Si vous voulez, oui. Alors moi, j'ai une traduction particulière, parce que j'ai voulu retrouver la traduction. Quand j'ai cherché au départ cet extrait, qui m'avait donc bouleversé, je suis tombé sur des traductions qui m'ont extrêmement déçu. Parce que au lieu de traduire par existence, il y avait être. Et là, d'un coup, ça fait très philo. Et on a l'impression que on parle pas de ce dont Marx veut parler.
C'est-à-dire surtout que c'est
condition d'existence.
Voilà, ça n'a rien à voir. L'être et l'existence. L'être a justement quelque chose d'éternel, d'idéal.
C'est ça. Alors que pour lui, c'est des conditions qui sont toujours socio-historiques d'existence. Mais cette citation, cette petite phrase, c'était « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale » qui détermine leur conscience, leur existence sociale. C'est-à-dire que ça implique le rapport que les humains ont entre eux, à un moment donné du temps. Et que c'est ça qui va déterminer tout ce qu'ils sentent, pensent, imaginent, etc. Voilà. Pour moi, il y a toute la sociologie, il y a toutes les sciences sociales là-dedans. Mais évidemment, il faut prendre la mesure de cette phrase et le traduire évidemment en acte de recherche et en travaux réels, quoi.
Mais vous avez raison, Bernard Laïr, cette phrase qu'on va réentendre dans le texte tout à l'heure, elle paraît presque banale. Et c'est vrai que il faut presque la faire percuter d'une certaine manière. Et je sais pas à quel niveau, comment pour les auditeurs, auditrices ou lecteurs, lectrices de Marx, à un moment donné, se dire, vous lisez comme ça, ça semble assez simple, mais en fait, il y a un truc dingue dans cette phrase. Oui. Vous avez été prof, donc vous pouvez voir comment on doit susciter en fait cet éveil-là.
Ce qu'il dit est valable à des échelles extrêmement différentes, c'est-à-dire à l'échelle des individus comme à l'échelle des sociétés dans leur entier. Pour un individu, cette phrase, ça suppose, et ça permet de la socio-analyse, comme disait Bourdieu, ça suppose de ramener ce que je pense, ce que je ressens, mes opinions, mes goûts, mes préférences, mes orientations, mes, voilà, ce que j'aime, ce que je déteste, etc., aux conditions d'existence qui ont été les miennes par le passé, et nous avons une vie voilà qui dure plus ou moins longtemps, mais cette expérience elle s'inscrit dans le temps, ça peut varier, ces conditions d'existence elles peuvent varier, bon, et donc nous pouvons avoir par exemple, moi j'avais une position sociale d'origine qui n'est plus celle de ma position d'arrivée pour le moment, hein. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller ou etc., mais en tout cas il faut toujours se poser la question de il dit ça. Mais d'où il parle ? Voilà. Alors ça, c'est un classique en politique.
Voilà. Hein. Mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une phrase aussi, d'où tu parles, ouais. Le point de vue, le fait d'être situé.
Mais les gens prennent très très mal souvent cette phrase, d'où tu parles. Mais c'est la base de la science. C'est la base de la science de se dire, mais il dit ça. On pourrait dire, de manière encore plus radicale, quels intérêts il défend. C'est-à-dire qu'en fait...
Ah ben là, moi, par exemple, ça me percute plus, déjà.
Oui, mais...
C'est pas français comme phrase en fait, que je viens de dire, mais voilà, ça me frappe plus.
Oui, mais si vous voulez, c'est pas qu'une question d'intérêt. Et quand on réduit à intérêt... Alors, je parle de cet intérêt, parce qu'il y a clairement des intérêts, et parfois des intérêts économiques, sociaux, très précis en vue. Quand les gens prennent position, on se dit quelle est leur position et qu'est-ce qu'ils veulent, par exemple, qu'on ne touche pas dans la situation actuelle. Les gens ont des positionnements politiques en fonction de ce qu'ils veulent protéger. Voilà, il y a des gens qui ont des privilèges, d'autres qui n'en ont pas, etc. Donc, toujours se dire quand quelqu'un parle, mais il parle d'où ? Il est propriétaire ou locataire ? Il a hérité d'une fortune ou pas ? Il a hérité d'ailleurs d'un appartement qui lui permet d'ailleurs d'être très à l'aise dans la vie, parce que les loyers prennent une bonne partie des revenus, des salaires des gens en général. Donc tout ça, c'est des questions complètement prosaïques, mais déjà, on voit que des gens qui sont propriétaires, ils vont pas agir de la même façon. Des gens qui ont des dettes ou des crédits, c'est assez connu que ils ont tendance à devenir un peu réactionnaires, un peu conservateurs, parce que ils sont pris, englués dans des remboursements, etc. Ils peuvent pas s'arrêter de travailler comme ça. Donc on a comme ça, en revenant aux conditions dans lesquelles vivent réellement les gens, la possibilité de comprendre. Mais leurs idées, leurs sentiments, leurs goûts.
Et l'idée de se dire aussi que ce n'est pas une conscience abstraite qui va s'adresser à nous, mais voilà, vraiment comme le dit Marx, en fait, on ne peut pas le dire autrement, d'existence sociale.
Voilà, des conditions d'existence sociale. Et ça marche pour les individus, mais ça marche aussi au niveau de la société. C'est-à-dire que se demander pourquoi il y a ces formes politiques, pourquoi il y a ces formes culturelles, ces formes religieuses, à un moment donné du temps, il faut toujours se dire, mais... quelles sont les conditions objectives d'existence dans cette société ? Et c'est pour ça que Marx en ramenait souvent les choses au mode de production de la société en question, qui ne cesse de varier dans l'histoire. Il n'y en a pas une infinité. Lui, il a désigné, il y a quelques grands modes de production comme... le mode de production qu'il appelait une sorte de communisme primitif. Enfin bon, c'est discuté, etc. Mais il y avait le mode de production féodal, il y avait le mode de production capitaliste, et il espérait un mode de production communiste, post-capitaliste. Mais à chaque fois, il ramenait les choses aux conditions les plus ordinaires de la vie des gens. Ils sont dans quel rapport ? Quand vous êtes... aujourd'hui, on se pose plus la question. On est salarié. Le salariat, c'est... Enfin, on n'est pas tous salariés. Il y a des professions libérales, etc. Et on essaye justement de casser aussi le salariat avec des formes d'auto-entrepreneuriat, etc. Ça vous change la mentalité des gens, ce qu'ils peuvent faire ou pas. Si vous êtes salarié, pourquoi on veut enlever le statut de plus en plus de fonctionnaire à vie ? Mais parce que ça vous fait des gens qui peuvent râler sans problème, qui peuvent manifester à n'importe quel moment, etc. Parce qu'ils ont dans l'emploi garanti. Si vous êtes tenu par votre entreprise, que vous avez plusieurs enfants à charge, etc., vous faites attention à chaque fois qu'il est question de manifester, de faire grève, etc. Vous n'avez pas les moyens de faire grève alors que vous êtes les plus touchés. Donc, si vous voulez, à chaque fois, il faut se dire, mais qu'est-ce que ces rapports-là contraignent dans ma vie, dans mes options, dans mes orientations et en fait dans mes représentations
dans mes
du
idées.
Monde. Oui, dans mes idées.
On va tout de suite écouter Bernard Lahir, cette fameuse phrase que vous avez déjà énoncée, mais dans la contribution, puisqu'elle était extraite de la contribution à la critique de l'économie politique, donc de Marx, et qui date de 1859.
Les rapports juridiques, pas plus que les formes de l'État, ne peuvent s'expliquer ni par eux-mêmes, ni par la prétendue évolution générale de l'esprit humain. Elles ont au contraire leur fondement dans les conditions de la vie matérielle que Hegel appelle d'un nom générique la société civile. Et c'est dans l'économie politique qu'il faut chercher l'anatomie de la société civile. Après avoir commencé à Paris l'étude de l'économie politique, je la continuais à Bruxelles, où je m'étais réfugié à la suite d'un arrêté d'expulsion pris contre moi par M. Guizot. Le résultat général auquel j'arrivais, et qui me servit de fil conducteur dans mes études, peut se résumer comme suit. Dans la production sociale de leur vie, les hommes entrent en rapport déterminé, nécessaire, indépendant de leur volonté, rapport de production qui correspondent à un certain degré de développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle répondent des formes sociales et déterminées de conscience. Le mode de production de la vie matérielle est condition du process social, politique et intellectuel de la vie en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence. C'est leur existence sociale qui détermine leur conscience.
Voilà cette fameuse phrase, Bernard Lahir, dans la traduction que vous souhaitiez. Je précise qu'on la trouve en Pléiade avec ce terme d'existence sociale. Alors, au départ, cette phrase, on l'a dit, c'est vrai que l'énoncer comme telle, elle peut sembler un petit peu plate. Vous avez dit, j'ai peur de l'aplatir, alors qu'elle contient toute la sociologie, elle contient une thèse fondamentale. Mais je trouve que quand on entend ce qui précède dans le texte, ça prend d'autant plus d'ampleur, puisque moi, dans ce texte, ce qui m'a vraiment frappée, et c'est vrai que vous m'auriez dit cette phrase toute seule, j'aurais dit oui, bon, d'accord, ok, on est déterminé socialement, mais le fait qu'ils disent ceci, dans la production sociale de leur vie, les hommes entrent en rapport déterminé nécessaire, indépendant de leur volonté, rapport de production qui correspondent à un certain degré de développement de leur force productive matérielle. C'est pas la fin de la phrase qui m'a frappée, mais c'est indépendant de leur volonté. C'est-à-dire qu'en lisant ce paragraphe, j'ai compris non pas seulement que c'était ma conscience qui déterminait tout, non pas seulement mon existence sociale entendue comme une détermination sociale, la classe à laquelle appartiennent mes parents, ma scolarité, mais même, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de me retrouver à travailler avec certaines personne dans une certaine structure que j'ai choisie, mais dont certaines modalités de production me sont aussi imposées. Par exemple, ça m'a frappé notamment avec le Covid, où là, on a dû tout changer notre mentalité avec ça. Et là, vraiment, je me suis dit, comment ça se fait que je n'avais pas compris ça avant ?
Parce qu'en fait, en permanence, on se fait des illusions sur notre capacité de choix, capacité de décider, etc. Et quand les chercheurs en sciences sociales font bien leur travail, ils expliquent aux gens qu'ils naissent dans un pays et pas un autre, à un moment de l'histoire de ce pays et pas à un autre. Voilà, vous naissez, Géraldine Mosna-Savoie, en plein Moyen-Âge, votre vie ne sera pas la même. Vous allez mourir beaucoup plus jeune. Vous allez avoir des conditions d'hygiène, des rapports aux politiques, aux religieux. Il n'est pas question d'être athée à cette époque, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous naissez même dans une langue particulière. Le mode de production, c'est pas vous qui l'inventez, mais la langue non plus. La culture de votre époque, elle est là, elle est présente et vous l'apprenez pendant plusieurs années, voire décennies, avant d'éventuellement commencer à y transformer des choses. Enfin, beaucoup de gens, je crois, ne changent pas grand-chose à ce qu'ils ont connu au départ, parce que c'est pas une chose facile que de transformer des choses qui s'imposent. Et c'est pour ça que ça dure très très longtemps. Certains types de sociétés, malgré tous les défauts, il y a une telle inertie que les gens ont très peu de temps.
Mais ça, c'est
leur vie, pour changer les choses.
Et pour transformer quelque chose à la fois de leur vie, mais aussi peut-être autour d'eux. Mais ça, c'est la grande question. Quand Marx nous dit c'est que c'est indépendant de notre volonté, qu'est-ce qui reste en fait comme pouvoir, comme puissance ? Vous êtes sociologue.
Oui.
Est-ce que ça vous
désespère
pas ? Voilà, je cherchais le terme. Il y a quelque chose de désespérant à être aussi dans un travail de description, mais aussi évidemment de prescription, aussi normatif, mais des conditions de cette existence sociale. Ça donne envie de faire quoi, en fait ?
L'avantage, c'est que quand on participe à l'aventure de la connaissance, au moins, on a la joie de découvrir des déterminismes que les autres ne connaissent pas.
Et ça change quoi ?
Il y a au moins cette joie-là.
La joie de la connaissance.
Alors après, effectivement, il y a un choc, forcément. Si vous voulez, n'importe quel chercheur en sciences sociales, il peut étudier les pires réalités. Il a une joie de la connaissance, c'est parce que la connaissance c'est pas moral, hein. C'est, on comprend des choses, on est content de les comprendre, même quand ces choses sont horribles. Mmh. Vous voulez comprendre un génocide, voilà. Si vous commencez à comprendre des logiques qu'il y a derrière, comment ça se combine, etc., vous êtes très heureux, alors qu'un génocide c'est horrible. Mais c'est comme ça, voilà. Alors. Une fois qu'on a dit ça, on sait, et puis moi j'ai été enseignant pendant très longtemps, donc je sais que c'est une question importante pour les étudiants ou pour les auditeurs quand on s'adresse à des gens qui sont plus en études mais qui s'intéressent aux sciences sociales, leur dire il y a des lois qui déterminent vos vies. Nos vies, depuis le début de l'histoire de l'humanité, que ces lois, on n'y peut pas grand-chose tant qu'on n'a pas appris à les connaître, en tout cas. Et ça, c'est la première étape. Si vous voulez transformer réellement les choses, vous devez apprendre à connaître ce qui structure, ce qui organise cette chose. C'est toute l'histoire de la technologie. C'est-à-dire la physique, la chimie, la biologie ont permis des choses ahurissantes. Vraiment, aujourd'hui, on peut manipuler des cellules, on peut manipuler des molécules, faire des nouveaux produits chimiques, faire des choses incroyables. On a fait les vaccins quand même. Je lisais encore ce matin que on a évité 40% de mortalité infantile avec les vaccins. Donc c'est des choses énormes, mais c'est pas les lois de l'époque. Épidémiologie. Il faut apprendre à connaître les virus, il faut apprendre à connaître leur fonctionnement, leur transmission, leur mutation, etc., pour les combattre, pour s'en sortir, pour ne pas mourir en masse face à une épidémie, ce qui a été le cas dans l'humanité, tant qu'on n'avait pas de vaccin, très très difficile quand même de s'en sortir. Oui. D'où la mortalité infantile qui a été très très forte pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Donc, connaître, c'est pouvoir transformer. Quand vous avez des vaccins, vous pouvez lutter contre ce genre de choses.
Mais la connaissance du sociologue, elle lui sert à quoi ? Hormis le plaisir que vous avez décrit, hormis le fait de savoir, et on pourrait être un petit peu spinoziste, c'est-à-dire il y a une forme de liberté à connaître ce qui nous détermine, à connaître le cadre dans lequel on peut agir. Mais vous, quel est le plaisir que vous avez retiré ? Par exemple, vous avez travaillé sur notamment l'échec scolaire, sur vous travaillez maintenant sur le vivant. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Sauf de pouvoir schématiser d'une certaine manière le monde.
Alors, moi, ce que ça m'apporte, c'est cette joie de connaître. Hein.
Et en termes de transformation, je voulais dire plutôt, voilà. En termes de, peut-être de liberté.
En termes de transformation, alors moi, je ne suis pas un acteur de la transformation. J'y tiens beaucoup parce que beaucoup de gens mélangent. Ils pensent que parce qu'ils sont bons sociologues, ils vont être bons politiques, etc. Mmh. Souvent, ça donne des catastrophes. Les gens sont beaucoup trop idéalistes comme sociologues. Ils pensent qu'avec des bonnes idées, on peut... Voilà. Non, ça ne suffit pas. Il faut laisser aussi une division du travail qui est utile, avec des gens qui savent agir politiquement, mais il faut que ces gens-là nous lisent et traduisent ce qu'ils apprennent du monde social pour changer le monde social dans un sens donné. Parce qu'on est lu par des gens très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Il faut quand même être précis.
Vous adressez à qui, par exemple, dans vos livres ?
Moi, implicitement, je m'adresse à ceux qui cherchent l'émancipation. Voilà. C'est-à-dire, je ne me satisfais pas d'un monde qui a des inégalités, qui a des injustices, qui a des discriminations, des stigmatisations, etc. Donc, moi, j'essaye de comprendre les rouages de ces choses-là, qui sont permanentes dans l'histoire des sociétés. C'est pas une invention récente, c'est pas nos sociétés capitalistes qui sont horribles depuis le début. Il y a des choses horribles dans l'humanité, des choses qui dépassent les individus humains X ou Y. Mais... connaître cette réalité, pour moi, c'est permettre d'avoir de vraies politiques progressistes. C'est-à-dire des politiques, on va dire, rationnelles de l'émancipation. Alors que beaucoup de gens, qui sont des gens de progrès, sont très idéalistes quand il s'agit de commencer à transformer le monde. Mmh. Ils pensent, par exemple, alors... contre Marx, on va dire, ils savent pas souvent qu'ils pensent contre Marx, mais ils vont penser qu'en changeant l'état d'esprit, l'état des mentalités, etc., ça va suffire. Aujourd'hui, je trouve que l'idée, par exemple, je devrais pas prendre des exemples aussi chauds, mais bon, pour moi, c'est assez évident que on parle beaucoup de libération de la parole autour de la question de la domination masculine, et c'est très bien. En plus, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. C'est comme ça. Il y a une prise de parole, prise de conscience, etc. Mais on pense que si on éduque autrement, si on change l'état d'esprit des gens, etc., ça va changer. Or, je pense que c'est beaucoup plus lourd que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai exactement la même ambition que les gens qui parlent de cette libération de la parole et de ses bienfaits, mais je pense que ça passe par beaucoup d'autres choses qui sont tout à fait objectives et pas seulement par une question de mentalité, d'état d'esprit.
Mais c'est la grande question, en fait, Bernard Lahire, que ce soit d'ailleurs en philosophie ou en sociologie ou en histoire, c'est... comment on change les hommes ? Je dis les hommes, les humains. Oui. Comment on change les hommes aussi, vu qu'on parle de libération de la parole. Oui. Alors que dans le texte de Marx, alors je précise quand même que ce texte, c'est vraiment un extrait de l'avant-propos de la contribution à la critique de l'économie politique qui date de 1859. On a souvent vu ce texte comme une esquisse du Capital. Mm-hmm. Mais on voit bien en fait que dans cet extrait-là, faut changer quoi ? Faut changer qui ? Parce que c'est pas les rapports juridiques, c'est pas l'État, c'est pas les idées, c'est pas les consciences. Tout le problème, c'est que Marx désigne un rapport qui s'établit entre les humains presque indépendamment d'eux-mêmes. C'est-à-dire vraiment, on dirait... Je vais prendre peut-être un exemple vraiment bête d'illustration de ça, mais par exemple, nous sommes tous les deux dans ce studio, Bernard Lahire. Un rapport s'établit entre nous. On a l'impression, en fait, que le rapport qui s'établit entre nous, nous n'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre, mais que c'est comme si quelque chose qui flotterait entre nous. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les rapports sociaux ? Et si oui, comment on peut changer cette forme impalpable de rapport social ?
Là, vous prenez un cas d'interaction individuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que Marx avait en tête. C'est-à-dire que pour lui, il y a un rapport capital-travail. Il dit bien dans le Capital qu'il y a des patrons très gentils, très sympas, très bienveillants, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas patron-ouvrier. On le traduit évidemment ordinairement comme ça, en disant le rapport entre les patrons et les ouvriers, l'intérêt des patrons, l'intérêt des ouvriers. Mais pour lui, c'est fondamentalement le capital et le travail. Mmh. Parce qu'il pose de la manière la plus abstraite possible, mais en fait la plus juste, le fait que le rapport est beaucoup plus important que les personnes qui entrent dans ce rapport.
Donc là, c'est pas vous, c'est pas moi.
Oui. Oui, oui.
C'est la structure dans laquelle nous sommes.
Voilà, il y a des choses qui nous précèdent, L'histoire de la technologie vous amène à être derrière un micro, ce qui était impensable.
Au Moyen-Âge.
Voilà, par exemple. Et même au 19e, il n'y avait pas ce genre de technologie. Et voilà, nous sommes déterminés par beaucoup de choses qui nous dépassent complètement. Et pour arriver à comprendre l'interaction entre deux personnes ou le rapport social fondamental qu'il y a entre le seigneur et son vassal, le seigneur et son serf, ou le patron et l'ouvrier, donc le rapport entre le capital et le travail, ben voilà, il faut aller chercher des grandes structures qui sont au cœur, en fait, de tout ce qu'on observe par ailleurs. C'est-à-dire que Marx, par exemple, dans le Capital, il cherche des lois, à mettre en évidence des lois du mode de production capitaliste, et après, il regarde toutes les manifestations de cette loi. Ces manifestations, elles sont très concrètes. C'est des conditions de vie des ouvriers, des mortalités plus importantes, le fait que le capital a besoin de chair à canon, donc allez, on prend les enfants quand c'est possible, on met les femmes au travail parce qu'on a besoin encore plus de travailleurs, etc. Donc, en fait, il y a il faut objectiver en fait ces conditions d'existence dans lesquelles les gens sont. Et quand vous posiez la question, mais qu'est-ce qui transforme les gens, comment transformer les gens, ben il faut transformer leurs conditions d'existence. Donc mais on a tant l'impression... qu'on n'a pas changé les conditions sociales d'existence, et je dirais même de coexistence, c'est-à-dire tant qu'on pense pas comment on va modifier profondément les rapports qu'ils ont entre eux, alors on passe à côté. Et si on commence à attaquer les formes de mentalité, etc., bon, c'est signe qu'on veut changer, donc c'est très bien, et qu'on ne se satisfait pas de la situation. Mais la solution n'est pas là.
Il faut aller, comme le dit Marx, chercher l'anatomie de la société civile. Oui, c'est ça l'anatomie ?
Ben pour lui, l'anatomie, c'est le mode de production. Parce que il dit dans une lettre.
Est-ce qu'il y a que ça pour vous ?
Non,
que le mode de production.
Non,
il y a quoi d'autre, tout, par exemple, comme c'est quoi d'autre comme anatomie de la société civile pour vous ?
L'anatomie, pour moi, elle est concrètement anatomique, c'est-à-dire une des choses que j'ai pu développer récemment, c'est l'idée que nous avons des grandes contraintes biologiques en tant qu'espèce. Qui, non pas au niveau génétique, hein, parce que les gens pensent qu'on va expliquer des comportements individuels à partir de considérations génétiques. Moi, c'est pas du tout mon objectif. L'idée, c'est de montrer comment des grandes contraintes de l'espèce, et par exemple cette altricialité secondaire, qui est cette longue dépendance des petits par rapport à leurs parents ou aux adultes plus généralement, c'est une très longue dépendance dans l'ensemble des espèces. On est vraiment ceux qui se développent le plus lentement à l'extérieur, et on reste très très longtemps dépendant des adultes. Pour des raisons à la fois biologiques et culturelles, parce que à ça se rajoute le fait qu'on doit apprendre beaucoup, beaucoup de choses avant de pouvoir être productif, on va dire. Et ben cette condition-là, qui est une condition tout à fait biologique, personne ne l'a choisie, on n'a pas voté pour, ça a des conséquences énormes sur la structure possible des sociétés humaines, parce que on est toujours renvoyé à ce schéma relationnel de base, domination-dépendance. C'est-à-dire une relation où les parents, ils sont à la fois protecteurs, et puis c'est ceux qui sanctionnent. C'est ceux qui ont l'autorité, c'est ceux qui interdisent, qui peuvent tuer même. Hein. Il y a des sociétés qui ont donné le droit au père de famille de tuer sa femme, ses enfants, ses esclaves. C'était la Rome antique.
Mais cette dépendance que vous évoquez, Bernard Laïr, et vous l'évoquez notamment dans votre dernier ouvrage, Les Sous les yeux, les structures fondamentales des sociétés humaines, on ne peut pas vraiment la changer. Bébé restera dépendant, un enfant de 15 ans aussi.
Oui.
Maintenant, je ne parlerai pas d'un enfant de 25 ans, mais les conditions matérielles, justement, font qu'on doit garder plus longtemps peut-être des enfants chez nous. Mais bon, à 15 ans, à 5 ans, ça, on ne peut rien y faire. Ça, on ne peut pas le transformer,
Pas le transformer, sauf que plus on est conscient que nous partons sur des bases de rapports de domination, en fait. Souvent, une question à laquelle ne répondent pas les sciences sociales, c'est pourquoi il y a de la domination ? Pourquoi il y a de la domination dans toutes les sociétés humaines connues ? Et ça, c'est quelque chose quand même de fondamental. À mon avis, on passe à côté de grandes questions, alors que parfois on dit philosophique, parce que les chercheurs en sciences sociales se débarrassent du problème en disant, bon, philosophe, vous, peut-être, vous arriverez
vous aurez une réponse.
Voilà, vous arriverez à répondre à cette question. Mais je pense qu'on peut y répondre par l'étude de la biologie évolutive, par la comparaison entre les espèces, par la préhistoire, par la paléoanthropologie, etc. Il y a des savoirs.
Donc, c'est ça la réponse. Si je vous pose la question, Bernard Laïr, pourquoi la domination? Vous me dites ça? Vous me dites la dépendance?
Pas seulement, mais c'est un élément, oui. Bah, en fait, dans toute société, il y a des hiérarchies. Dès qu'il y a de la société, dans la plupart des espèces de mammifères étudiées, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont pas hyper documentées non plus, il y a du travail encore pour les éthologues, mais on constate qu'il y a des hiérarchies. Il y a des rangs parmi les mâles, parmi les femelles, entre mâles et femelles, etc. Et une des réponses des éthologues, c'est il y a de la hiérarchie pour que ça calme les agressions à l'intérieur de la société. C'est-à-dire simplement, ils ont constaté que une fois que tout le monde sait quelle est la position de l'autre, on s'attaque moins.
Ce qui est paradoxal.
Ce qui peut paraître effectivement
parce complètement
contre-intuitif.
Parce que c'est justement en vertu de la hiérarchie qu'on peut agresser quelqu'un qui serait une position inférieure.
Oui, mais du coup, ça évite beaucoup en fait. Quand quelqu'un, à l'intérieur d'une société de grands singes par exemple, quand il y a un mâle alpha, les autres viennent vers lui en faisant très attention, en montrant qu'ils sont soumis, etc. Et lui, il n'a pas besoin de les frapper. En revanche, quand son pouvoir commence à être mis en question, parce qu'il est vieillissant, parce qu'il y a, j'allais dire, il y a un jeune qui monte et qui est plus avec une force physique, etc., et qu'il a des alliés, ce qui a été bien étudié par quelqu'un comme Franz De Waal, il y a des phénomènes d'alliance, etc., et il y a des petits groupes qui se montent pour essayer de faire perdre le pouvoir au mâle alpha qui peut rester très très longtemps chef du groupe, on va dire. Donc, il y a ces moments de tension, mais exceptionnellement, et la plupart du temps, il y a quand même une pacification, et même le mâle alpha est chargé un peu de faire de la pacification. Dès qu'il voit deux se battre au sein du groupe, il les sépare. Donc, en fait, il y a un effet de pacification. Et qui dit pacification dit plus de survie dans le groupe, plus de sécurité dans le groupe. Ils font aussi du travail de protection par rapport aux attaques de l'extérieur. Donc, on voit que ça a servi à ça. Voilà. Donc, on n'a pas, nous, humains, inventé les hiérarchies. On n'a pas inventé la domination. On a réinventé culturellement ce qui était inventé par des animaux non humains, bien avant nous et tout autour de nous.
En vous écoutant, Bernard Laïr, on va s'apercevoir que vous êtes déjà dans le sujet de ce deuxième texte que vous nous avez suggéré. C'est extrait des manuscrits de 1844 et Marx nous y parle de la possibilité, ou plutôt du désir, de même, on dirait quoi, de l'injonction à ce qu'il n'y ait qu'une seule science.
Le monde sensible doit être la base de toute science. Celle-ci ne devient science réelle que si elle part de la réalité sensible sous sa double forme de conscience sensible et de besoin sensible, donc si elle part de la nature. L'histoire tout entière a servi à préparer, à rendre progressivement possible, la transformation de l'homme en objet de la conscience sensible, à faire du besoin de l'homme en tant qu'homme un besoin sensible. L'histoire est elle-même une partie réelle de l'histoire de la nature, du processus de transformation de la nature en homme. Les sciences de la nature engloberont plus tard la science de l'homme, tout comme la science de l'homme englobera les sciences de la nature. Il n'y aura plus qu'une seule science. Le premier objet de l'homme, l'homme, est nature, monde sensible. La réalité sociale de la nature, la science naturelle humaine ou la science naturelle de l'homme sont des expressions identiques.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Alors ce texte peut paraître un petit peu compliqué, il l'est compliqué quand même, il faut le dire, un petit peu répétitif avec ce terme de sensible. Mais il y a cette phrase qui a été un deuxième choc pour vous, Bernard Lahire, cette phrase que quand Marx dit « il n'y aura qu'une seule science », à savoir il n'y aura pas une science de l'homme, une science de la nature, mais une seule science, celle de la nature, qui comprend celle de l'homme.
Oui, alors, lu à partir de tout ce qui a été produit comme connaissance en biologie, en éthologie, en sciences sociales depuis, c'est presque une sorte de petit miracle, cette phrase. Parce qu'il pressent, et il faut dire pressentir, parce qu'il n'a pas lu encore l'origine des espèces de Darwin. On aurait pu, si c'était un texte postérieur à 1859, Marx a lu en 1860, je crois, l'origine des espèces.
L'origine des espèces, c'est 1859.
Oui,
donc,
c'est
voilà.
Ça. Et Engels, qui lit souvent avant lui, ce genre de texte, il l'a lu avant lui, il lui a dit, il faut que tu lises ça. Et là, il dit, mais c'est au fondement de notre conception. C'est-à-dire, c'est les bases de notre matérialisme. C'est les bases naturelles de ce que nous continuons, nous poursuivons sur le plan historico-culturel, on va dire. Et donc, c'est assez incroyable qu'en 1844, ils disent « il n'y aura plus qu'une seule science ». La science de la nature sera à l'intérieur de la science de l'homme et inversement. La question ne se posera pas parce que ça répond tellement à des... Enfin, ça correspond tellement à ce qu'on a appris depuis que, par exemple, la culture est un produit de l'évolution biologique. Mmh. C'est quelque chose qui apparaît, c'est un type de comportement qui apparaît dans l'histoire du vivant pour des raisons d'adaptation. C'est tout à fait... On peut comprendre à partir de Darwin pourquoi il y a de la culture qui apparaît et pas que chez l'homme. Aujourd'hui, on sait qu'il y a outils, apprentissage, transmission culturelle chez les cétacés, des insectes, des mammifères, des oiseaux,
et c'est important
des poissons.
C'est important de le souligner, Bernard Lahire, qu'il n'y a pas une forme de biologisation du social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du darwinisme social, il n'y a pas du marxisme biologique, d'une certaine manière. Il y a vraiment l'idée de voir comment... Dans toute espèce vivante, il y a déjà des formes de sociabilité, des cultures, c'est ça. C'est vraiment nature, sociale, culturelle.
Oui, c'est ça. Et je ne comprends pas, je comprends, mais beaucoup de collègues plutôt mal intentionnés, on va dire, ne cessent de me ramener à de la biologisation, etc. Mais c'est des gens qui ne lisent pas, donc je dirais que j'ai même pas envie de débattre avec des gens qui ne lisent pas vraiment, ou qui lisent mal, alors c'est pire pour eux, parce qu'au moins quand ils ont pas lu, ils sont tranquilles, et c'est pas une question de compétence, mais je pense à ce moment-là, ça devient de l'incompétence quand on lit, et quand on lit le contraire de l'intention de l'auteur. Voilà, on peut pas soupçonner Marx de vouloir faire une forme de sociobiologie qui n'existait pas à son époque. Il constate simplement que en lisant Darwin à partir de 1860 et avant, il a ce pressentiment, on va dire, du lien entre l'histoire naturel du vivant, des espèces, du lien et de la continuité de ce vivant à travers des formes qui sont culturelles, qui sont propres à ce moment-là à l'homme, parce qu'il y a de l'accumulation culturelle très très importante du côté du genre homo et d'homo sapiens comme espèce. Et ça, c'est quelque chose... qui est juste matérialiste. Darwin a été matérialiste pour l'histoire du vivant, Marx a été matérialiste pour l'histoire des sociétés humaines.
C'est d'ailleurs ce qui permet peut-être de bien comprendre la manière dont Marx s'est attaqué à l'idéalisme. On l'a entendu dans le premier extrait qu'on a entendu et que vous avez convoqué, Bernard Lahire, notamment quand il cite Hegel en disant qu'il veut aller plus loin. Mais là, on l'entend... encore plus. Alors, dans ce texte-là, on n'entend pas le côté matérialisme, même concret de la survie. Mais j'aimerais lire cet extrait qui est un extrait du discours sur la tombe de Karl Marx du 17 mars 1883 de Engels, dans lequel il est dit ceci. De même que Darwin a découvert la loi du développement de la nature organique, de même Marx a découvert la loi du développement de l'histoire humaine, c'est-à-dire ce fait élémentaire voilé auparavant sous un fatras idéologique que les hommes, avant de pouvoir s'occuper de politique, de sciences, d'art, de religion, etc., doivent tout d'abord manger, boire, se loger et se vêtir. Mmh. Et ça, je trouve qu'on comprend même la matérialité du matérialisme avec cette phrase.
Ah ben, comme toujours, Engels est très très clair, en fait. On fait souvent d'Engels une sorte de sous-Marx, etc., ce qui n'est absolument pas le cas. Et on voit bien dans ce discours prononcé lors de l'enterrement de Marx qu'il a clairement en tête cette articulation entre la biologie darwinienne et l'analyse que propose Marx de l'histoire des sociétés humaines, en ramenant toujours les choses à des conditions de vie et de survie, parce que nous faisons partie du vivant. Voilà. Mmh. D'ailleurs, il y a une phrase de Mauss que j'aurais dû amener, mais comme on devait parler de Marx, je me suis dit...
Vous avez pris plusieurs phrases de Marx.
Voilà. Mais Mauss, dans un texte qu'on trouve dans le recueil Sociologie et Anthropologie, dit le monde social est fait d'êtres vivants. Il commence par là. Bon, rappelez ça, on se dit, bon, c'est banal. Mais il dit, seuls des êtres vivants peuvent être sociaux. Et en fait, il continue en disant que la sociologie est une branche de la biologie. Donc, en fait, aujourd'hui, où on a tellement séparé l'histoire du vivant de l'histoire des sociétés humaines, on ne se rend pas compte de choses qui étaient évidentes pour des fondateurs, hein, parce que Mauss fait partie, avec Durkheim, voilà, de la grande première période en France des sciences sociales. Mauss était tout à fait conscient que les formes sociales sont une forme d'organisation du vivant. Et que si on comprend pas qu'il y a vivant dans forme d'organisation, si on s'arrête à forme d'organisation et qu'on dit social et puis hop, on oublie qu'on est des êtres vivants, on oublie qu'il faut survivre, qu'il faut se défendre par rapport à l'extérieur, qu'il faut trouver de quoi se nourrir, que quand on est en société, ça s'organise collectivement, etc., etc.
Très rapidement, Bernard Lahire, car le temps presse, mais c'est bien ce qu'on entend aujourd'hui, notamment sur la continuité entre le vivant et la culture, entre l'abolition de cette distinction nature-culture. Oui, oui. Il manque quelque chose à ce désir d'abolition, il manque le mot social.
Non, alors moi je pense qu'il faut différencier social, parce qu'il y a du social chez des animaux qui sont beaucoup moins culturels que nous, et on voit très bien que le social, c'est un phénomène émergent. Parmi les espèces vivantes, dans l'histoire des espèces vivantes, à un moment donné, des espèces commencent à s'organiser socialement. Parce que leur survie est bien meilleure en collectif que en vivant en animaux solitaires. Bon, pour dire les choses très rapidement. Donc, on a cette apparition du social dans l'histoire des espèces vivantes. Et au-delà de ça, plus vous avez de culture, plus ces formes sociales ne cessent de se déformer. Avec la culture qui ne cesse de varier. Parce que la culture, c'est un moyen de s'adapter beaucoup plus rapidement. Parce que une forme culturelle, le vaccin que j'évoquais tout à l'heure est une forme culturelle. Nous avons inventé le vaccin pour nous adapter beaucoup plus rapidement à une situation très problématique. Donc, on a effectivement cet étagement biologique, social, culturel, et il n'y a pas de scission à faire, entre nous sommes culturels et nous n'avons aucune nature, et les animaux seraient uniquement naturels, et ils n'auraient pas de social ni de culture. Enfin, tout ça tombe depuis longtemps, mais là, c'est évident.
music, mama don't like. Swing music, mama don't like. Hot music, mama don't like. Bop music, mama don't like. Rock music, mama don't like. Papa he likes. Jump music, papa he likes. Swing music, papa he likes. Hot music, papa he likes. Bop music, papa don't give up. What mama don't like. Sister don't like. Swing music, sister don't like. Hot music, sister don't like. Pop music, sister don't like. Rock music, sister don't like.
Cette chanson, Bernard Lahire, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors, c'est vraiment la question qui m'a posé le plus de problèmes.
Plus que Marx. Plus que l'analyse de Marx.
Ah oui, ça c'était pas un problème. D'abord parce que je pense que au fond, l'étau scientifique fait que c'est ne pas lire des gens n'est pas une option. C'est pas possible. C'est-à-dire que même des gens qu'a priori on n'aime pas, qu'on déteste, qui nous résistent, comme vous le dites, en fait, il faut les lire.
Même quand on comprend rien, il y a aussi l'incompréhension.
Je vais y venir.
Ok, pardon.
Mais grosso modo, on doit lire, s'efforcer de lire même des gens qu'on n'aime pas, parce que le monde scientifique est ainsi fait que pour avoir de bons arguments, il faut savoir quels sont les contre-arguments. Si vous ne lisez pas les gens qui sont très différents de vous, vous ne pouvez pas devancer ces arguments. Donc vous vous affaiblissez et c'est pas bon pour votre travail. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on va lire. On commence à les lire, on se dit, bon, voilà, ça vaut pas grand-chose, on va pas lire toutes leurs œuvres. Bon, ça, c'est deuxième étape, on apprend à faire le tri. Et puis alors, il y a des gens qui peuvent résister au sens très particulier de « on ne comprend pas ». On ne comprend pas vraiment ce qu'il raconte, et quand on comprend, on n'est pas d'accord. Donc ça fait beaucoup. Voilà. Alors il y a un cas comme ça, je sais que beaucoup de gens adorent cet auteur, mais moi c'est avec Bruno Latour que j'ai eu depuis longtemps un problème, parce que en essayant de comprendre un certain nombre de ses textes, pas tous, hein, je cite d'ailleurs très positivement, les gens oublient ça quand ils disent « Ah bah Bernard Lahire n'aime pas Latour », d'ailleurs c'est pas une question d'amour ou
oui,
pas.
Hein, on l'a compris.
Voilà. Je cite par exemple un texte qu'il a avec une primatologue sur les babouins, sur qu'est-ce que c'est que le social, chez les babouins, chez les humains, la différence entre les deux, c'est une réflexion tout à fait intéressante, mais une grande partie de la production de Bruno Latour, et surtout deuxième partie de carrière, pour moi est incompréhensible. D'ailleurs, il m'avait envoyé un de ses textes en me disant « Nous avons beaucoup de choses à partager », je n'ai rien compris à ce texte. Donc,
parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, Bruno Latour, sociologue, disparu il y a quelques années, en 2022, il était aussi sur ces questions du vivant.
Oui, mais vous voyez, c'est... Alors, quand on prend large, on se dit, oui, bah,
oui, question du vivant, ressemble. C'est vrai que je suis un peu vague, question du vivant.
Ça ressemble, on pourrait dire la même chose avec Descola, etc. Oui, mais en fait, j'ai des oppositions très, 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 très fortes par rapport à ces auteurs. Et puis, quand même, Latour a été un spécialiste de la provocation, je pense qu'il en était conscient, même si on lui avait demandé, il aurait dit « mais non, je ne suis pas provocateur », parce que c'est exactement son style, hein, de faire une provocation et de dire « ben non, je ne suis pas provocateur », ou de dire « on lui dit « vous êtes relativiste », « ah ben non, je n'ai jamais été relativiste », mais à un autre moment, il va... Bon. Bref, tout ça est très compliqué.
Il contribue d'ailleurs à l'incompréhension.
C'est un peu comme une anguille, quoi. C'est difficile de l'attraper, Bruno Latour. Et toute son histoire sur Ramsès II qui serait pas mort d'un bacille de Koch parce que Koch n'avait pas encore découvert le bacille de la tuberculose me laisse un peu sans voix.
On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Bernard Lahire. De vous, on peut lire Vers une science sociale du vivant, coécrit avec Laure Flandrin et Francis Sansaigne, Les structures fondamentales des sociétés humaines. Tous les deux sont disponibles aux éditions de La Découverte. Et pour lire les œuvres de Marx, les possibilités sont prodigieuses. Folio, Essai, Puf, Flammarion, bientôt bien d'autres éditions. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Anthony Thomasson à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.